Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, 19h c'est l'heure, édition spéciale sur CNews à 9h45. Ce 8 juin, la France s'est arrêtée. Sous un soleil radieux, à Annecy, appelée la Venise des Alpes, connue pour être l'une des meilleures villes où il fait bon vivre en France. Pas loin du lac, au pied du pont dit du pont des amours, dans un jardin d'enfants, au milieu des cris d'insouciance et de joie. L'horreur a donc choisi son décor pour frapper 4 enfants en urgence absolue, 2 avec un pronostic vital engagé, 2 adultes également frappés. La France en souffrance. Qui pouvait imaginer un événement aussi terrible? Entre la sidération, l'effroi, la colère, quel cap vient d'être franchi? Est-ce cette scène d'horreur qui pourrait tout changer et forcer les autorités à un grand changement en matière sécuritaire? L'horreur, oui, mais jusqu'à quand? L'édito de Mathieu Bock-Côté. La France en souffrance, le pays de la compassion et des marches blanches. Mais sommes-nous également le pays du déni politique? Immédiatement, le procès en récupération a été brandi dès ce matin. Que veulent cacher ces procès en récupération systématique? Est-ce une manière d'évacuer la possibilité de réfléchir à ce drame? L'analyse de Raphaël Steinville. La France en souffrance. Comment ne pas hurler sa colère lorsqu'elle est touchée au cœur de son enfance? Bataclan, Nice, Villeurbanne, Marseille. Ces enfants, ces jeunes âmes, ont-elles payé de leur vie le dévoiement de l'accueil dans notre pays? Le décryptage de Gabriel Cluzel. La France en souffrance, mais qui est cet homme qui s'est interpellé, tant bien que mal, qui a poursuivi l'assassin, qui l'a empêché de faire d'autres victimes face à l'abominable, celui dont personne ne parle? Est-ce la seule responsabilité personnelle, l'audace, le courage de risquer sa vie qui peut limiter les actes monstrueux? Loin de se faire justice soi-même, n'y a-t-il pas là un principe de lutte, de résistance à saluer? Le regard de Marc Menant. La France en souffrance, la France a toujours accueilli les demandeurs d'asile qui échappaient à la mort dans leur pays pour se réfugier sous ses ailes protectrices. Aujourd'hui, pourquoi certains réfugiés apportent-ils avec eux la terreur dans le pays dont ils foulent le sol en toute tranquillité? La nation pourra-t-elle surmonter ses divisions devant cette manifestation d'horreur? L'édito de Mathieu Bock-Côté. Je vous le disais, édition spéciale ce soir dans Face à l'info pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. On commente, on décrypte, on analyse. C'est parti avec nos journalistes et nos éditorialistes. Charlotte n'est pas avec nous ce soir, on pense à elle. Gabriel Cluzel est là, Marc Menant, Raphaël Steinville, merci d'être avec nous, Mathieu Bock-Côté et Noémie Schulz nous avons fait venir exceptionnellement ce soir déjà pour planter le décor. Quels sont les faits? Que s'est-il passé depuis ce matin?
On sait que l'attaque s'est produite ce matin, vous l'avez dit, aux alentours de 9h45. Un homme s'est présenté dans ce parc, cette aire de jeu située tout près du lac d'Annecy. Et il a pris pour cible, et c'est ce qui est frappant sur une vidéo de l'attaque que nous avons pu consulter, il a pris pour cible les petits enfants qui se trouvaient ce matin dans ce parc, des enfants très jeunes, moins de 3 ans, des enfants qui n'étaient pas encore scolarisés. Et c'est intéressant de voir qu'il n'a absolument pas cherché à s'en prendre aux adultes qui, certains, ont cherché à le faire fuir ou à s'interposer, mais il ciblait uniquement les petits enfants. On a vu donc cet homme en noir, bermuda, t-shirt, avec des lunettes noires aussi, une sorte de foulard sur la tête, qui portait une croix chrétienne autour du cou, qu'il a embrassé, il a semblé embrasser à plusieurs reprises et qui, voilà, déambule dans ce parc et s'en prend à ses jeunes enfants avant de tenté de prendre la fuite. Il a été très rapidement interpellé et on aura l'occasion d'y revenir puisque 4 minutes après, les forces de l'ordre étaient présentes sur place. On ne sait évidemment rien encore des motivations de cet homme.
On parlera justement de l'action de la police dans un instant, après les deux premiers éditos. Mais que sait-on du profil de l'agresseur ?
On sait que c'est un Syrien de 31 ans qui est arrivé en France en 2022, mais il vivait déjà depuis 2013 en Suède. Il avait d'ailleurs obtenu le statut de réfugié en Suède. Il était arrivé en France en 2022. Il avait fait une demande d'asile à ce moment-là, dans laquelle d'ailleurs il disait, il se présentait comme un chrétien de Syrie, une demande d'asile qui lui a été refusée. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, il avait déjà ce statut de réfugié en Suède et qu'on ne peut pas l'obtenir dans deux pays différents. Et ce refus lui avait été notifié il y a quelques jours, au début du mois de juin. On sait que cet homme en Suède, il avait construit sa vie puisqu'il était marié, il avait un enfant. Cette jeune femme qu'il avait rencontrée en Turquie, nos confrères de l'AFP ont pu s'entretenir avec cette jeune femme qui a donné des éléments. Il était donc arrivé. On sait qu'il est il n'avait pas d'antécédents, il n'était pas connu ni des services de renseignement ni de la police. C'est également ce qu'ont indiqué les enquêteurs suédois. Il n'avait pas d'antécédents judiciaires en Suède. La question, bien sûr, de son profil psychiatrique va se poser, mais nous n'avons pas d'éléments à l'heure actuelle. On sait qu'il est passé à l'acte avec un couteau pliable de type Opinel. Et il y a effectivement beaucoup de questions maintenant que l'enquête va devoir, auxquelles l'enquête va devoir répondre. Il a été placé en garde à vue. Cette garde à vue, elle peut durer jusqu'à 48 heures, car... Et là aussi, c'est important. La procureure de la République d'Annecy, qui dirige l'enquête, indique qu'il n'y a pour le moment pas de mobile terroriste, en tout cas rien qui peut laisser penser qu'il y a un mobile terroriste dans cette attaque. Ça n'est donc pas le parquet antiterroriste qui s'est saisi de l'enquête. Et cet homme, donc, est en train d'être interrogé. Visiblement, une garde à vue un petit peu chaotique. Il tient des propos relativement peu cohérents. Et c'est pour ça que les jours à venir seront très importants pour comprendre s'il avait prémédité cette action depuis plusieurs jours, s'il était venu en repérage. Il est en tout cas en garde à vue pour tentative d'assassinat.
Avant d'écouter l'édito de Mathieu Bock-Côté, je vous propose d'écouter quelques secondes de l'ex-compagne de l'assaillant qui dit qu'elle n'a pas de ses nouvelles.
Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ce que vous me dites, c'est terrible. Mais je n'ai pas eu de contact avec lui, je ne sais pas où il vit, ni comment il va psychologiquement. Donc je ne peux pas en dire beaucoup. Je ne sais pas grand-chose de lui depuis 8 mois. Nous nous sommes rencontrés en Turquie, nous sommes tombés amoureux et nous sommes venus en Suède. Après 2 ans, nous nous sommes mariés, mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. À ce moment-là, il est parti. Nous nous sommes séparés parce que je ne voulais pas quitter la Suède.
La journée semblait tranquille, consacrée au dernier moment du débat sur les retraites ce matin. Puis l'horreur absolue nous a rattrapés. Un migrant syrien, comme il a été présenté, un demandeur d'asile qui officiellement demandait protection à la France, s'est livré à cette attaque à l'arme blanche contre des enfants à Annecy. 2 d'entre eux, je le disais en titre, ont un pronostic vital engagé. Cet événement n'est pas sans nous rappeler, Mathieu Bock-Côté, qu'Emmanuel Macron nous a parlé il y a quelques jours à peine de la décivilisation du pays, alors que d'autres parlent d'ensauvagement.
Je pense qu'il serait bien malvenu aujourd'hui, pour quelques commentateurs que ce soit, de contester la valeur de ces deux concepts, de ces deux termes, ensauvagement ou décivilisation. Parce que, qu'est-ce qu'on voit là? Et ça va être le point de départ de ma réflexion. Chaque fois qu'on a un événement qui frappe des enfants notamment, mais pas seulement, mais on peut penser à l'histoire de la petite Lola, on se dit, ben là, un cap vient d'être franchi, on ne voit pas ce qui pourrait être pire. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'encore pire que la scène que nous venons de vivre? On s'est dit ça au moment de l'affaire Lola. Là, je ne veux pas faire de hiérarchie dans l'horreur. Je dis simplement qu'on n'avait pas imaginé non plus dans nos scénarios les plus chaotiques, dans nos scénarios les plus horribles, qui avait imaginé l'idée d'un migrant qui a demandé protection à la France et qui, au moment où il demande protection à la France, qui se vit comme un réfugié en Europe, on verra son profil psychiatrique, on verra s'il est fou, on verra tout ça, mais qui se présente comme un réfugié. Et par ailleurs, c'est sous ce statut de demandeur d'asile qu'il se met à poignarder des bébés. Je pense que personne n'aurait pu imaginer la formule « poignarder des bébés » dans sa tête. C'est une phrase que l'esprit humain se refuse de construire pour d'excellentes raisons, parce que c'est une phrase horrible. Alors qu'est-ce qu'on voit? Un cap a été franchi. Encore une fois, un cap assez, c'est un poignardé au hasard, hein, si je peux me permettre. Il faut en rajouter là-dedans. On est dans le summum de l'horreur. Mais j'ose pas dire ça parce que rien nous dit que dans 3 semaines, dans 6 semaines, ou demain, ou dans 1 an, on n'aura pas un autre événement qui nous dira « on était absolument incapable de prévoir ça ». On est à nouveau dans le summum de l'horreur, comme si on repoussait sans cesse le pic de l'Everest dans la conquête de l'horreur dans nos sociétés, à tout le moins en Europe et en France en particulier. Et je crois que c'est le point de départ que l'imagination est chamboulée, l'imagination est bouleversée. Nous ne sommes pas capables d'imaginer le pire sous ce trait, et pourtant nous y sommes obligés, d'autant que là, tout est filmé. Tout est filmé. On voit un individu erratique, un individu errant. On voit, j'y reviendrai, un individu courageux. Un, pas 10, pas 15, pas 20, pas 30. Un courageux qui lui tient tête. Mais quoi qu'il en soit, c'est le point de départ de cette histoire. Deux éléments aussi dans cette première... c'est le moment de poser le problème. Immédiatement, avant que quelques récupérations, on y reviendra dans un instant, ne surviennent, le système, je dirais, médiatico-politique se met en place pour dire... pour interdire toute réflexion sur le statut de la personne qui est là, c'est-à-dire objectivement, c'est un migrant syrien. Là, on découvre qu'il est chrétien et on a l'impression d'entendre dans plusieurs salles de rédaction un immense soulagement. C'est-à-dire, ouf, il est chrétien, imaginez s'il était autre chose. Et dès lors, on traitera le problème, je dirais l'événement, avec une forme de... je dirais, d'esprit un peu tordu. C'est-à-dire, s'il avait été au QTF et globalement musulman sous le signe du Allahu Akbar, alors là, il y aurait tout le dispositif du pas d'amalgame qui se serait mis en place. Là, il se déploie, mais autrement, en disant il est interdit de réfléchir au fait que cette personne soit un migrant syrien. Je note, soit dit en passant, sur une autre chaîne info, un témoin des événements racontait ce qu'il a vu. Puis il dit, vous savez, il prend la peine de dire c'est un migrant, puis il dit ça arrive assez souvent, il prend la peine de noter l'ampleur du phénomène migratoire. Et tout de suite, la journaliste est là pour le recadrer, ne lui permet même pas aux témoins des événements d'aller jusqu'au bout de ce qu'il raconte, en disant « Ah non, 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 lui, il était rentré légalement. » C'est pas une circonstance atténuante, si je peux me permettre. Mais elle présentait ça sur l'homme, surtout ne tirez pas de conséquences sociales ou politiques de tout cela. Je ne peux m'empêcher de citer par ailleurs le maire d'Annecy, François Astorg, j'espère ne pas mal prononcer son nom, qui a publié un tweet il y a quelques jours, le 23 mai, où il disait « Annecy est une terre de résistance au fascisme, une terre de solidarité, une ville refuge pour celles et ceux qui fuient la guerre, la misère et le malheur dans le monde. Il en va de notre devoir et plus encore de notre honneur d'affirmer ici nos convictions républicaines. » Je note simplement que ce n'est pas le fascisme qui a frappé à l'arme blanche dans sa ville aujourd'hui.
Mathieu Bocoté, on se demande en ce moment, est-ce qu'il s'agit d'un acte terroriste? On a vu que pour l'instant, on ne va pas vers cette piste. On se demande s'il s'agit d'un problème psychologique. On a une tendance à aller tout de suite aussi vers ce profil. Cette distinction est-elle nécessaire en ce moment?
Alors, on ne peut pas ne pas se poser la question du « est-ce que c'est un acte terroriste? » Apparemment, ce n'est pas le cas pour l'instant. Et parce qu'on est passé dans l'espace de quelques années en Europe... donc de l'attentat l'organisation militaire, c'est le Bataclan, l'attentat au couteau du loup solitaire. Donc on voit qu'il y a ces deux pour là, et là, le premier réflexe, on pouvait se dire on est devant ce cas. C'est peut-être pas le cas. Donc il est bien de distinguer les types de violences. Donc c'est pas un attentat terroriste à ce qu'on en sait. Par ailleurs, est-ce que c'est un cas de folie pure? C'est pas inimaginable, ça arrive. Il faut avoir une case un peu mal placée pour poignarder des enfants. Des bébés. Il faut être, d'une manière ou de l'autre, qu'il soit fou ou non, il est fou de poignarder. Il faut quand même le dire.
Ou à tout moment, il est possédé. Des médicaments ou des stupéfiants.
Ou il est possédé, ou on aurait dit ça autrement. D'une manière ou de l'autre, il n'est pas parfaitement sur cette terre. Ce qui est certain, cela dit, donc oui, il faut distinguer les types de violences. Distinguer les types de violences n'est pas de manière de les hiérarchiser, encore une fois. C'est-à-dire, la violence qui frappe la France aujourd'hui est multiforme. C'est une violence multiforme qui prend plusieurs visages. Il y a le cas des violences terroristes en tant que telles. Il y a aussi les violences de ce qu'on pourrait appeler le gangstérisme ou les dealers qui ne brandissent pas je ne sais quel drapeau religieux, c'est pas l'élément central de leur violence, mais qui font, et Charlotte nous en parle très régulièrement, qui font subir aux Français une violence régulière, atroce, abjecte, sans drapeau, sans slogan, sans Allahu Akbar, mais c'est une violence qui frappe. Et là, donc, on a la violence aussi, si c'est le scénario qui se confirme, du déséquilibré absolu. Et ça, encore une fois, on le redit souvent ici, accueillir sous le signe du droit d'asile des gens qui ont des problèmes psychiatriques graves, eh bien, en dernière instance, on accueille non seulement cette personne, mais ses problèmes et les conséquences de ses problèmes. Et les conséquences de ses problèmes aujourd'hui, ce sont des coups de poignard à répétition. Donc, quel que soit, je dirais, le type de violence, ça fait partie de cette vague qui participe à la décivilisation dont nous parlait Emmanuel Macron. Plus largement, on peut se dire qu'il n'y a plus aucun endroit qui est à l'abri. Il faut juste le dire. L'école n'est plus à l'abri, on en a parlé cette semaine. La rue n'est plus à l'abri, non plus que les transports en commun. Les femmes sont les premières à le savoir. Les parcs, désormais, dans une ville qui se croyait protégée contre tout, surtout contre le fascisme, bien qu'une autre chose ait frappé aujourd'hui. On parlait autrefois, vous savez, on disait il y a des quartiers non recommandables. On disait « va pas dans ce quartier-là si tu veux pas de soucis ». Et là, on a inversé la logique peu à peu. Désormais, on guette les quartiers recommandables. Là, tu vas peut-être te tenir tranquille, mais il n'y a plus de lieux véritablement immunisés. Il n'y a plus de lieux sous bouclier. Il n'y a plus de lieux véritablement protégés. Et ça, je dirais, de la Seine-Saint-Denis à Annecy, vous pouvez, en toutes circonstances, en tout lieu, désormais, recevoir un coup de poignard.
Est-ce que cette scène d'horreur pourrait tout changer et forcer les autorités à un grand changement en matière de sécurité? Beaucoup se posent la question.
Je pense que c'est le premier réflexe. Quand on voit ça, on se dit, bon là, ça ne sera plus jamais pareil. Là, on va se tenir. Là, devant une violence comme celle-là, nous n'allons plus capituler. La vérité, c'est que je n'en crois rien. Je n'en crois rien. D'abord, parce que ça n'a pas pris, je le disais, ça n'a pas pris 2 heures, ça n'a pas pris 1 heure pour qu'on nous explique immédiatement qu'il n'y a aucune signification politique à tirer d'un tel événement. Et ça, vous noterez dans le discours médiatique, c'est une rhétorique intéressante à analyser. D'un côté, je dirais, dans le cas de certains commentateurs et certains politiques, plus vous vous dites horrifié par l'événement, puis on ne doute pas un instant qu'il soit horrifié, soit dit en passant, plus ils sont horrifiés, moins l'événement a de sens. Donc plus vous êtes horrifié, plus c'est un fait divers, tellement singulier, tellement inimitable, qu'il n'y a aucune réflexion sociologique ou politique ou civilisationnelle à en tirer. Donc ça, c'est l'élément qui me semble déterminant là-dedans. Donc, tout ce qu'on vient de l'horreur, mais on parle d'autant plus de l'horreur des événements que c'est pour expliquer qu'il n'y a aucune réflexion à en tirer. Dès lors, s'il n'y a aucune réflexion à en tirer, mais pourquoi y aurait-il un changement de cap politique? Si ce qui se passe là n'est pas le symptôme d'autre chose, c'est simplement le symptôme du dérèglement dans l'esprit de ce monsieur, eh bien, pourquoi faire autre chose qu'appeler un bon psychiatre en disant « on va vous soigner désormais, cher monsieur, en espérant que vous ne poignardiez plus jamais de bébés dans leur carrosse et pas non plus de personnes âgées par ailleurs ». Mais je ne peux m'empêcher de dire « le commun des mortels va se dire ça, donc on fera rien », ça j'en suis convaincu. Ça radicalise le sentiment d'impuissance. On est presque aujourd'hui désensibilisé, j'y reviendrai dans le deuxième édito, mais on est presque désensibilisé aujourd'hui par ces violences à répétition et on les normalise. Ça fait désormais partie du paysage. Mais oui, bien sûr, aujourd'hui, quelqu'un s'est fait poignarder. Bien sûr, il y a eu une fusillade. Bien sûr, les femmes ne peuvent plus se promener librement dans le métro. Bien sûr, il y a eu, pour reprendre une formule que j'ai entendue cette semaine, c'est le fait atroce de la semaine. C'est le fait atroce du jour. Il y a une banalisation des faits atroces, donc une désensibilisation. Et par ailleurs, ce qu'on appelle l'état de droit, souvent, est une forme de machine à programmer l'impuissance des sociétés agressées, cette fois-là sur le mode individuel. Vous noterez, si on vous attaque et que vous vous placez sous le signe de l'autodéfense, on va le proscrire, on dira « Ah, vous allez trop loin dans l'autodéfense ». Si on s'empare de votre maison et vous cherchez à la reconquérir, on va dire « Ah, vous cherchez à tasser le squatteur », mais le squatteur a plus de droits que vous. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On programme une société dans l'impuissance quand on ne la pousse pas à se défendre. Et là, ça nous ramène à ce personnage qu'on a vu, Marc nous en parlera. Une personne, ils étaient nombreux dans le parc aujourd'hui, une personne décide de tenir tête à l'agresseur.
Personne n'en parle.
Mais c'est fascinant, il est seul.
On en parlera.
Il est seul. Il y a des dizaines de personnes, on en comprend que ce soit, ou à tout le moins, ils fuient, on les comprend de fuir. Hein. Personne n'a envie de tenir tête à un fou furieux avec un canif ou avec un poignard. Il n'en demeure pas moins que ça nous en dit beaucoup sur une société qui finalement pratique l'esquive plutôt que la contre-attaque, plutôt que la défense. Donc devant cela, dans les prochains jours, je redoute quant à moi une orgie de bougies, de peluches et l'appel à la marche blanche. Personnellement, l'appel à la marche blanche aujourd'hui me rend très colérique. Ce n'est pas d'une marche blanche dont on a besoin, mais c'est de tout autre chose, je crois.
Aucune signification politique à tirer de cet événement, mais nous, on va en parler. On va oser dire les choses. Et se poser des questions, et on fera un tour de table dans un instant. J'ai envie de vous entendre. Le choc, l'effroi, la colère. Raphaël Steinville, au-delà de l'émotion, est-il possible de se poser des questions qui fâchent sans craindre d'être accusé de procès en récupération?
Vous avez raison, Christine, cette question, elle est cruciale et en même temps, elle est impossible. quelques minutes après le drame, et alors que de premiers responsables politiques de droite réagissaient et à raison et interrogeaient politiquement la signification de ce fait, de cette tragédie qui avait lieu à Nice, déjà apparaissaient les premiers commentaires, les premiers interdits venus de ceux que l'on pourrait qualifier le lobby pro-immigrationniste, les gardiens de les champions de la créolisation, pour reprendre une expression chère à Jean-Luc Mélenchon. Alors, je vous cite tout de go, c'est Pascal Clark, la haute conscience de la presse sur France Inter, qui sonne l'alarme. La vie d'enfant est en jeu, les extrêmes pourraient avoir la décence de se taire. C'est Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui met en garde tout de suite. Évitons d'instrumentaliser ce fait divers et de généraliser. Et Louis Boyard d'Enchaîner, le député de la NUPES, qui prévenait sur Twitter, voir le RN et Aurore Berger faire de la récupération, c'est écœurant, s'il vous plaît, pensez aux familles, ce n'est pas le moment. Louis Boyard nous dit, ce n'est pas le moment. J'ajouterai, et c'est bien là le problème, notre drame, ce n'est jamais le moment d'en parler. Ce qui est sidérant avec tous ceux qui n'ont aucune pudeur pour instrumentaliser au-delà de toute décence le drame ou la tragédie d'un migrant, qu'on songe, souvenez-vous, à cette figure du petit Elan, 5 ans, retrouvé mort sur une plage noyée en Turquie, c'était en 2015, et qui allait précipiter l'accueil inconditionné de l'Europe, de ces centaines de milliers de réfugiés syriens. Ceux-là même qui interdisent aujourd'hui qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse penser la signification de ce fait, c'était les mêmes, les premiers, qui ont instrumentalisé à loisir cette figure du petit Elan. C'était vrai en 2015, mais c'est vrai de manière récurrente, permanente. Souvenez-vous, encore plus récemment, c'était le cas de la tragédie de Lola, victime innocente d'une femme en situation irrégulière en France, sous le coup d'une OQTF non exécutée. Alors que le bon sens aurait voulu qu'on puisse se demander si cette tragédie aurait pu être évitée, et je pense qu'une immense majorité des Français se posait la question de savoir si la justice n'avait pas failli, si finalement le gouvernement n'aurait pas pu, par son énergie à vouloir contrôler les flux migratoires, remettre de l'ordre et empêcher ce drame, ça nous était interdit. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour ce faire ? Ils invoquent un délai de décence. L'heure est d'abord à l'émotion, à la compassion pour les familles, et c'est bien normal. Mais cette émotion écrase tout. C'est Bruno Retailleau dans Valeurs Actuelles aujourd'hui qui réagissait, qui parlait de qu'est-ce qu'il disait ? Il disait la chorégraphie des faits, c'est toujours la même chose. Il y a d'abord l'émotion, après c'est l'indécence à vouloir parler de ce drame, et puis après il n'espère qu'une chose, l'oubli. Et quand vous avez l'outrecuidance finalement d'aller contre justement les diktats de ces politiques de gauche, soit de la presse bien pensante, alors vous êtes d'extrême droite. On essaie de vous disqualifier pour interdire, empêcher toutes sortes de discours critiques.
Émotion et réflexion, est-ce que c'est possible d'avoir les deux à la fois ? Mais comment expliquer, Raphaël Steinville, cette détermination, d'autres diraient cette acharnement de certains, parfois même au pouvoir, à vouloir parfois même interdire tout débat?
Alors il y a plusieurs raisons, mais la première et la plus évidente, c'est que d'abord, être pro-migrant pour un certain nombre de ses responsables politiques, c'est déjà une vertu dont il se pare. Dès lors que c'est un migrant qui est à la manœuvre, un migrant qui assassine, c'est tout le discours sur lequel ils construisent leur vertu qui s'effondre. Et surtout, c'est la deuxième chose, c'est que un migrant dans le logiciel de la gauche aujourd'hui ne peut être qu'une victime. Victime de la guerre, victime du climat, de la pauvreté, de la faim, de la misère, victime, et Mathieu en parle régulièrement, de l'histoire coloniale dont la France serait éternellement comptable et redevable. Bref, victime, toujours et partout et tout le temps. Il ne supporte pas que le migrant, et c'est pour ça que je dis le migrant, parce que il s'agit pas seulement de parler des clandestins, de parler de tel ou tel, c'est la figure même du migrant qui est sacralisée dans le discours de la gauche. Il ne supporte pas que le migrant puisse apparaître sous les traits d'un bourreau, comme ce qu'on a pu vivre aujourd'hui. Cela heurte leur bonne conscience, chamboule leur logiciel droit de l'homiste. Alors, comme le dit Mathilde Panot, autre responsable de la NUPES, les mots manquent. Où c'est Jean-Luc Mélenchon qui dans un tweet disait mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Parce que justement ça vient contrarier tout leur logiciel et donc l'émotion doit suffire à cette absence de réponse. C'est France Info qui va plus loin dans leur flash de 17h30. Il précisait dans son titre que l'assaillant est chrétien, mais à aucun moment il ne précisait qu'il était syrien, comme si ça les arrangeait. Reste les faits, la réalité qui vient contrarier leur récit angélique. Le récit angélique est contrarié, c'est le Bataclan, la tragédie de Nice, le meurtre atroce de Lola, je l'évoquais tout à l'heure, les faits de société, et Mathieu le disait, qui se comptent par dizaines, jour après jour, et que l'on commente régulièrement sur cette antenne, et qui devrait faire la une, si on était raisonnable, qui devrait faire la une de tous les journaux. Et aujourd'hui, on s'est habitué à ces tragédies. C'est pour cela qu'il cherche à interdire tout débat et instruise contre ceux qui viendraient remettre en cause ce récit, un procès en instrumentalisation. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, je pense, c'est que la réalité est suffisamment forte pour ne plus être instrumentalisée. Elle est là sous les yeux des Français. Je ne sais pas si ça vous arrive depuis ce matin, mais qui n'a pas reçu ces vidéos effroyables de l'attaque de cet assaillant ?
Horrible.
Donc c'est vrai d'Annecy, ce paradis devenu un enfer qu'on ensanglante, c'est l'enfance, l'innocence qu'on assassine, et il faut pouvoir embrasser cette réalité et accepter l'idée que le migrant aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, est plus souvent un bourreau qu'une victime, que notre générosité malheureusement se paie en drame.
Dans un instant, j'ai une dernière question pour vous. On va regarder beaucoup d'attaques au couteau, on en parlera avec vous. Et avec vous, on regardera aussi, ma chère Gabrielle, tous ces enfants qui ont déjà été victimes. Et on fait un petit point avec Noémie Schultz dans un instant. Mais dernière question pour vous, Raphaël Steinville. Ces questions interdites, quelles sont-elles? Est-ce à dire que cette tragédie aurait pu être évitée?
Alors, ce n'est pas tout à fait ce que sous-j'entends, encore que. Mais ceci dit, il y a des questions, effectivement, qui méritent d'être posées. Alors d'abord, j'aimerais revenir sur le profil de l'accusé. Abdelmassi H, donc on l'a dit, est un Syrien. Il vit depuis une petite dizaine d'années en Suède, où il a fini par obtenir le statut de réfugié. Mais comme la condition de réfugié est plus généreuse en France et ouvre à plus de droits et de prestations, notamment sociales, il s'est aventuré à faire une nouvelle demande d'asile en France fin novembre, libre de pouvoir circuler dans l'espace Schengen. Alors sa demande, ça a été dit, a été retoquée à raison par l'OFPRA. Parce qu'il bénéficiait déjà d'une protection internationale de la part de la Suède. Mais il peut toujours faire un recours, et ça, c'est ça qui est fantastique, devant la Cour nationale du droit d'asile. J'avais cet après-midi un ancien juge de la Cour nationale du droit d'asile qui me disait qu'effectivement, il ne traite quasiment jamais de ces recours de Syriens parce que l'OFPRA, de manière très généreuse, mais parce que les Syriens vivent une guerre civile, les Syriens sont accueillis.
Donc on voit, on fera un tour de table dans un instant là-dessus, on demandera des précisions.
Mais en fait, au-delà de la question individuelle et du parcours de cet homme, c'est la question du dévoiement du droit d'asile, on en reviendra, de l'immigration incontrôlée, bref, de la responsabilité de l'État que nous voudrions interroger. Certes, la France a un devoir d'humanité, mais le premier devoir de l'État n'est-il pas la protection qu'il doit à ses nationaux? Et ça, je pense que cette question, encore une fois, elle est cruciale, elle est passée sous silence. Je vous disais tout à l'heure, on évoquait le cas de 2015, des services de renseignement qui avaient alerté que dans les flux des migrants, de ces réfugiés qui arrivaient en France, se cachaient très probablement des terroristes. Là, il ne s'agit même pas de cette question, c'est juste la question du migrant, de ces flux incontrôlés qu'on ne maîtrise plus. Et il y a quelque chose, alors que Gérald Darmanin doit présenter un projet de loi asile et migration, il y a cette question centrale, c'est à chaque fois on est sur deux piliers, humanité et fermeté. Mais les Français aujourd'hui voudraient que cette fermeté, que le droit à la protection supplante ce droit incompressible qui semble être celui de l'accueil des migrants.
Peut-on dénoncer les accords Schengen? Peut-on venir illégalement en France et solliciter le droit d'asile? C'est assez classique. On parlera de tout cela. On fera un tour de table dans un instant. Noémie Schultz, je reviens vers vous. Déjà, une réaction par rapport à Raphaël Steinville.
Un mot sur les motivations, les raisons pour lesquelles cet homme est arrivé en France. Alors, vous évoquez la possibilité que ce soit parce qu'il voulait profiter d'aides plus avantageuses pour les réfugiés. des éléments que nous avons, encore une fois, ce n'est pas parfaitement établi. Il y a notamment son ex-femme avec qui on a pu s'entretenir, et l'AFP également, qui indique qu'il n'a pas réussi à obtenir la nationalité suédoise et que c'est pour cette raison qu'il a décidé de quitter la Suède et qu'ils se sont séparés parce qu'elle ne voulait pas quitter la Suède. Donc, c'est encore ces éléments, on va bientôt en avoir la confirmation, puisqu'on est évidemment, les autorités françaises sont en lien avec les autorités suédoises, mais effectivement, on cherche à comprendre pourquoi, alors qu'il était, il avait une vie en Suède, il avait donc une femme, un enfant.
Une fille de 3 ans.
Pour quelle raison il a quitté la Suède pour la France, dans laquelle il n'a visiblement pas d'attache. On sait aussi, c'est ce qu'a dit son ex-femme, que la majorité de sa famille vit aujourd'hui aux États-Unis à cet homme. Donc c'est vrai que c'est une question, on n'a pas encore vraiment les réponses exactes.
Et vous nous disiez tout à l'heure que sa demande de droit d'asile ici a été refusée le 4 juin. On l'a appris aussi dans la journée. Question, on va s'arrêter un peu sur les victimes. Que sait-on, Noémie Schoss, des victimes?
Alors, on va parler des victimes physiquement blessées, mais il faudra aussi évoquer ces personnes qui ont assisté ce matin à cette scène d'horreur dans ce parc et qui seront aussi, pour certaines, reconnues comme des victimes de cette attaque. On pense notamment à cette femme qui semble être une assistante maternelle et qui tente à un moment de s'interposer et qui n'y arrive pas. Et l'enfant dont elle a la charge est ensuite violemment poignardé. Donc, il y a évidemment les victimes visuelles, comme l'a dit la procureure. Mais sinon, nous avons 6 victimes physiques, 6 personnes, 4 mineurs, 4 enfants, des tout petits enfants, hein, puisqu'ils sont âgés de 22 mois à 3 ans, un petit néerlandais de 22 mois, une anglaise de 3 ans et 2 enfants de 2 ans, vraisemblablement un frère, des frères et sœurs. Tous les 4 sont en urgence absolue. Ils sont toujours bien sûr hospitalisés. 2 adultes blessés, là encore par l'assaillant. Un des 2 a été plus légèrement blessé et l'autre a été blessé et par l'arme blanche donc de cet homme, par un coup de couteau, mais également par un coup de feu, puisqu'on sait que les policiers, quand ils ont cherché à neutraliser cet homme, eh bien, ont évidemment accidentellement blessé cet homme. Nous avons donc 6 personnes physiquement blessées.
Que peut-on dire à l'heure qu'il est de la réaction de la police? Est-elle intervenue suffisamment tôt, trop tard? Comment analyser?
Ce qu'on peut regarder, c'est le délai qui s'est écoulé entre les premiers appels, les premiers signalements. Il y en a eu beaucoup, puisqu'encore une fois, alors on peut pas dire qu'il y avait énormément de monde dans ce parc. On est dans un parc, il est 9h30 du matin, mais vous avez effectivement des joggeurs, des gens qui font du vélo. Et puis, vous avez ses parents ou ses assistantes maternelles qui sont présents et qui font prendre l'air à leurs enfants. Donc, un premier appel qui a été passé et moins de 4 minutes après l'intervention de la police et des agents municipaux, puisqu'on est tout près de la mairie d'Annecy, mais également des policiers nationaux. L'intervention a donc été extrêmement rapide. Elle n'a pas empêché effectivement qu'il y ait des blessés, mais on peut imaginer que si elle avait été plus longue, il y aurait pu y avoir des dégâts plus importants. Et effectivement, cette deuxième enquête qui a été ouverte pour se pencher sur ce coup de feu qui a été tiré et qui a blessé cet homme, cette sixième victime. Mais ça, c'est la procédure normale. Quand des coups de feu sont tirés, il y a toujours une enquête qui est ouverte. Je voulais revenir aussi sur ce que vous disiez sur le fait qu'une seule personne est intervenue.
On l'a vu sur les images avec 2 sacs à dos. Intervenir, ralentir l'action justement de l'agresseur.
Il fait tout ce qu'il peut.
On en parlera avec
vous. Vous allez en parler. Il faut là encore ne pas imaginer qu'il n'y avait pas forcément énormément de monde dans cette aire de jeu et peut-être beaucoup de femmes, encore une fois, puisque souvent ce sont des femmes qui s'occupent des tout petits enfants. Il faut imaginer la panique et c'est moi une des choses que j'ai trouvées les plus terribles dans cette vidéo qu'on a évidemment décidé de ne pas diffuser sur CNews. Ce sont les hurlements de peur des personnes qui se trouvaient sur place.
Et
il faut imaginer l'état de sidération dans lequel on peut se trouver face à une attaque comme celle-ci. Il a fallu effectivement un courage immense à cet homme. Et c'est toujours délicat de juger aussi ceux qui ne l'ont pas eu.
Merci beaucoup pour vos précisions, chère Noémie Schoss. Merci infiniment. Et merci à ces policiers qui sont intervenus très rapidement, comme vous l'avez souligné, en 4 minutes seulement. Gabriel Cluzel, quel niveau d'immunisation, quel accoutumance au poison avons-nous collectivement subi depuis des années pour accepter, comme une fatalité presque, le meurtre de jeunes enfants ici sur notre territoire? Ce n'est pas la première fois.
Non, vous avez raison, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que des enfants sont sacrifiés finalement sur l'autel de notre impéritie migratoire. Pardon de le dire un peu brutalement, mais c'est ainsi. Je vais donner quelques noms, il me semble important d'en parler, pas forcément de façon chronologique, mais en fonction de leur âge, du plus petit, du plus jeune au plus grand. Il y a la petite Léana, vous vous souvenez, 2 ans et demi, qui était... Alors là, je ne parle que des morts, Dieu merci, pour le moment, à Annecy, nous avons des blessés. Je n'ai pas retenu les blessés, car cela ferait beaucoup de monde, mais il y a simplement les morts, et cela fait hélas déjà beaucoup. Donc la petite Léana, 2 ans et demi, avait été fauchée sur la promenade des Anglais, vous vous souvenez, à Nice, hein, le 14 juillet 2016. Alors, elle est la plus jeune, mais elle n'est pas la seule. Il y avait au total 15 enfants et adolescents parmi les 86 victimes. Alors, je n'ai pas retrouvé tous les prénoms, hélas, mais citons Yanis et Kylian, 4 ans, Kayla, 6 ans, Yanis, encore 8 ans, c'était le cousin de Léana, Amy, 12 ans, Mehdi, 13 ans, Laura, 13 ans, Ludovic, 15 ans, une autre Laura, 16 ans, André, 17 ans. Alors, le terroriste est un Tunisien qui était connu dès son enfance pour des troubles psychologiques. Qui était arrivé en 2005 en France, qui avait régularisé sa situation, visiblement de façon illégale, puisque j'ai vu qu'il avait régularisé sa situation par un mariage en 2007 et obtenu ainsi un titre de séjour. Et bien avant l'attentat de Nice, il s'était fait connaître de la police pour des faits de délinquance. Entre 2010 et 2016, il a été condamné 5 fois pour violence volontaire, vol, etc. Et il avait été mis sous contrôle judiciaire. Et puis, comme il harcelait sa femme et qu'il l'a frappée, il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement du foyer. Bah, tout ça, visiblement, ça n'a pas suffi à lui faire suspendre son titre de séjour. Voilà, et le renvoyer en Tunisie. Alors, évidemment, il y a la jeune Lola en 2022. Alors, vous savez que là, il est devenu interdit d'en parler, hein, sous peine d'avoir... De se voir consacrer une émission accusatoire par le service public, hein, mais qui n'avait que 12 ans et qui a été, dont la meurtrière était sous le coup d'une OQTF. Alors au Bataclan en 2015, la plus jeune victime avait 17 ans, elle s'appelait également Lola. Et vous vous souvenez que la cellule terroriste avait profité de la crise migratoire en Syrie, encore une fois, pour prendre la route des réfugiés syriens dans l'espace Schengen. Et puis même s'il était majeur, on m'autorisera à citer Timothy, 19 ans, originaire de Savoie. Il se trouve que j'ai eu un contact avec sa grand-mère, terrassée, après une émission de CNews. Elle m'avait appelé. Il a été égorgé le 31 août 2019 à un arrêt de bus de Villeurbanne. Il était venu écouter un concert. C'était un pâtissier qui a de grand talent. Il a même fait un stage à l'Élysée pour ça. Il a même remporté un concours de poésie. Donc, vous voyez, il avait beaucoup de talent. Et son meurtrier est un demandeur d'asile afghan, schizophrène et paranoïaque. Il a été déclaré pénalement irresponsable. Alors, quelques jours après le drame, le journal Le Progrès avait titré « Y a-t-il eu une faille ?» dans l'agression sanglante de Villeurbanne. Et en fait, on savait que finalement, l'auteur de ces coups de couteau avait une véritable dangerosité, mais que sans doute la prise en charge n'avait pas été à la hauteur du risque. Et puis dans le journal, on rajoutait que un expert disait « Ah oui, mais vous savez, certains réfugiés afghans présentent un danger particulier en raison de leur traumatisme et leur toxicomanie ». C'est intéressant, voilà, de le savoir au passage. Et puis, terminons en fait cette triste galerie de portraits par Morane et Laura. Elles n'ont pas 2 ans, mais à 20 et 21 ans, je vous assure que pour leurs parents, c'était des enfants. Assassinées gare Saint-Charles à Marseille en octobre 2017 par un ressortissant tunisien en situation irrégulière, escroc et toxicomane, connu des services de police italiens et français pour des faits de délinquance. Alors, j'ai pas évoqué à dessein, pourtant, Dieu sait si leur souvenir m'a marqué, les enfants de l'école de Toulouse aux Aratora, Arié, Gabriel et Myriam, car Mohamed Merah étant né en France, il avait la double nationalité. Mais néanmoins, quand on voit l'histoire de cette famille, si lorsque son père a commis ses premiers méfaits, on l'avait renvoyé directement en Algérie, il est probable que Mohamed Merah n'aurait pas été là en France en mars 2012.
Merci pour cette longue liste, Gabriel, qui fait froid dans le dos. Mais est-ce qu'il y a aussi des assassins d'enfants français ? On pose les questions qui fâchent.
Bah, évidemment, évidemment. Il y a même des serial killers. Je peux vous donner des noms terrifiants. Mais c'est bien parce que nous avons déjà fort à faire avec nos cinglés, nos pervers, nos tordus, qu'il ne faudrait avoir l'humilité, le réalisme de dire que nous ne pouvons pas prétendre accueillir les autres. Et même la charité. La charité à l'endroit de mes enfants. Parce que je parle à dessein de charité, parce que souvent on utilise la fibre charitable pour dire aux Français: mais comment vous refuseriez d'accueillir tous ces migrants? Vous seriez des gens sans cœur. Vous savez, la charité sans la prudence, c'est de la folie pure. C'est ces fameuses vertus chrétiennes devenues folles de Chesterton. Le berger qui fait entrer le loup dans la bergerie, c'est pas quelqu'un de charitable, c'est un fou furieux. Point barre. Et nous en sommes là, évidemment. Alors, je voulais citer un rapport très intéressant de l'OMS. En 2021, un rapport intitulé « Santé mentale et déplacements forcés ». Et il écrit « Les migrants et les réfugiés peuvent être exposés à divers facteurs de stress qui nuisent à leur santé mentale et leur bien-être durant leur parcours et pendant leur installation. Donc la prévalence des troubles mentaux courants tels que la dépression, l'anxiété, le trouble de stress post-traumatique, etc. est généralement plus élevée chez les migrants que parmi la population d'accueil. C'est un constat. Mais alors l'OMS fait ce constat pour demander que les migrants aient accès aux structures de santé. Mais nous savons que nos structures de santé sont embolisées. Et ce constat devrait être au contraire un gyrophare pour nos gouvernants. On parle de principes de précaution pour tout, le bisphénol, le glyphosate, le gaz de schiste, vous en vous en citez 45. Mais en revanche, pour l'accueil de migrants, on ne se demande pas si leur santé mentale est susceptible de mettre en danger nos enfants. Et lorsque d'aventure, alors ça aussi, c'est quand même absolument incroyable, la Cour nationale du droit d'asile, comme le 14 février dernier, rejette la demande d'asile d'un requérant afghan en raison de troubles psychotiques abolissant son discernement et entravant le contrôle de ses actes, bref, constituant une menace grave pour l'ordre et la sécurité, cette Cour se voit accusée, je cite, de psychophobie institutionnelle par une tribune publiée dans le Club de Mediapart et signée par des représentants d'organismes tels que la Ligue des droits de l'homme, Médecins du Monde, etc. Mais que diront de nous les générations à venir? Nous avons laissé poignarder nos enfants sans moufter. Franchement, est-ce que nous arrivons à intérioriser ça?
Gabriel Cluzel, il faut aussi noter que parmi ces auteurs de meurtre ou de tentatives de meurtre, certains étaient en situation régulière.
Mais tout est à revoir, l'immigration légale comme l'immigration illégale. Et du reste, il y a une forme d'hypocrisie à ne pas vouloir constater le continuum poreux entre ces deux immigrations. Et en réalité, quand on pose la question aux Français, c'est de ces deux questions-là dont il s'agit. Il faut faire un plan Marshall de l'immigration. Et c'est quand même très, très étonnant que ce gouvernement, qui est très offensif sur les retraites, dont la réforme des retraites, les Français ne voulaient pas, eh bien, en revanche, sur les questions migratoires, là, tout le monde est d'accord, eh bien, il reste très pusillanime. Alors, notons quelques points purement factuels, et j'en terminerai là. Si les demandes d'asile étaient étudiées à l'étranger, si l'appréciation de la dangerosité était érigée en principe de précaution, si le simple fait d'être entré illégalement sur le territoire français vous interdisait de prétendre à obtenir un titre de séjour, si la première incartade vous renvoyait dans votre pays d'origine, si toutes les OQTF étaient respectées, et puis évidemment si les accords de Schengen étaient revus, parce que pardon, pourquoi paierait-on à Annecy les conséquences des décisions ou les inconséquences de la Suède, je vous le demande, eh bien toute cette liste d'enfants ne serait pas égrenée comme je l'ai fait, puisque ces migrants n'auraient pas été là.
On va faire un tour de table sur la question. Je commence avec vous, Marc Menant. Dans un instant, on va s'arrêter avec vous sur celui dont personne ne parle ce soir. Celui, l'homme, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son prénom, avec deux sacs à dos qui a tenté de ralentir, qui a réussi à ralentir l'action de l'agresseur. Faut-il revoir, par exemple, justement, les accords Schengen? Faut-il se poser ce genre de questions? Sommes-nous sur un plateau ce soir de récupération politique? Quelles questions a-t-on le droit de se poser? Quelles questions n'a-t-on pas le droit de se poser? Pardon, l'émotion doit-elle empêcher la réflexion?
Alors, moi, je suis peut-être à ce moment-là moi-même, parce que j'ai des interrogations. C'est-à-dire que face à l'horreur, je ne suis pas là, je ne suis pas dans la condamnation. Je tournicote, je me dis, est-ce que c'est possible d'éviter ça, etc., etc. Donc, il est plus que légitime que nous ayons un échange, mais un échange, malheureusement, intellectuel. C'est-à-dire qu'il nous faut laisser de côté l'émotion, être dans le raisonnement. Pour moi, ce que disait Gabriel il y a quelques secondes est essentiel, à savoir que les gens venant de ces terres, souvent, ont un traumatisme. Souvent, ce sont des gens qui ont une souffrance. Et mais que fait-on des gens qui sont en souffrance? Et c'est là où, quoi qu'il arrive, on accueille, on dit, on est généreux. J'ai été longtemps dans, je dirais, ce mea culpa, soyons dans la générosité la plus absolue. Reste qu'on ne fait rien pour que ces gens puissent éventuellement venir se poser, s'interroger sur la terre où ils viennent, essayer de les mettre dans une situation d'assimilation et déjà d'apprivoisement de cette nouvelle terre. Là, on les laisse, et immanquablement, on les laisse en germination de ces éclatements invraisemblables. Je crois que ce sont ça les vraies questions.
Je pense que nous n'avons pas attendu aujourd'hui, avec la scène d'horreur de ce matin à Annecy, pour critiquer, pour condamner non seulement l'immigration illégale, mais l'immigration massive. Là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une scène extrême. Et ça serait absolument fou de réduire, de voir dans cette scène le point culminant du droit d'asile, le point culminant de l'immigration massive. C'est une de ces dimensions parmi d'autres. Mais le fait est qu'on doit rompre avec l'immigration massive, donc illégale, et légale à bien des égards. Réduire la part légale à sa part tout à fait moindre, parce que ça vient déstructurer fondamentalement nos sociétés, nos pays qui ne peuvent plus et qui sont saturés démographiquement, qui sont saturés culturellement, qui sont saturés sociologiquement et qui aujourd'hui ne savent plus comment réagir à cela, d'autant qu'elles sont dans cette camisole, dis-je, de force qui se présente comme l'état de droit, mais qui est dans les faits un dispositif culpabilisateur pour la société d'accueil lorsqu'elle veut se défendre, soit individuellement, soit collectivement. Je pense qu'à l'échelle de l'histoire, l'immigration massive telle qu'on la connaît en Occident aujourd'hui aurait été une catastrophe pour l'Europe, pour le monde occidental plus largement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de très belles histoires individuelles à travers ça. C'est-à-dire que sur le plan politique, c'est intenable.
Raphaël Steinville, pour venir illégalement en France, beaucoup vont solliciter le droit d'asile, on le sait. C'est très classique. Est-ce que se poser la question ce soir du dévoiement du droit d'asile, c'est déraper ?
Non, je pense que c'est indispensable. Le droit d'asile, dans sa version originelle, était très restrictif. On l'a ouvert à de multiples cas qui, aujourd'hui, font que tout un chacun, presque dès lors qu'il peut se réclamer d'une persécution familiale ou autre, peut invoquer le droit d'asile pour rentrer en Europe et plus particulièrement en France. C'est très documenté. Moi, j'invite tous ceux qui s'y intéresseraient. C'est justement le dossier qu'on consacre cette semaine dans notre dernier numéro de Valeurs Actuelles. Cette histoire du dévoiement du droit d'asile est absolument confondante. Et aujourd'hui, on gère en grande partie les conséquences de ces dévoiements.
In the name of Jesus Christ, au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que l'homme a crié, tenant a priori une croix autour du cou. Vous, qui êtes croyante, Gabrielle Cluzel, qu'est-ce que ça vous évoque, puisque ça a été beaucoup mis en avant aujourd'hui?
Ça a été beaucoup mis en avant, et évidemment, ça me choque profondément, puisque comment un chrétien peut-il observer un crime qui de ce genre commis au nom du Christ? C'est absolument confondant. Mais j'ai envie de dire que cet homme soit chrétien, pas chrétien, fou, pas fou, le problème, encore une fois, est celui du droit d'asile. Et il y a des fous chrétiens. On va pas le nier. Je vous rappelle que celui qui a incendié la cathédrale de Nantes et qui a assassiné un prêtre en Vendée s'appelait Emmanuel. Il n'y a pas plus chrétien comme prénom. Donc après, certains, il faut le dire et il faut rester prudent, que c'est parfois certains se sont dit chrétiens, notamment en Syrie, parce que c'était l'occasion de recevoir un droit d'asile plus facilement.
Une dernière question pour vous avant de faire réagir Marc. Jusqu'où doit aller la générosité française ? Que l'on veut garder, que la France veut garder une certaine générosité.
Je vous avouerai, il peut y avoir une pathologie de la générosité. Hein. C'est une générosité qui est retournée contre son propre peuple. Donc le peuple français n'est pas invité à... On ne lui a jamais demandé s'il était d'accord avec l'immigration massive. De l'autre côté, on ouvre les frontières fondamentalement et on dit « acceptez ». Et si vous n'acceptez pas, et par ailleurs on ne vous a pas demandé, vous n'êtes pas généreux, vous êtes probablement des monstres. Et ça, je pense qu'à un moment donné, cette pathologie de la générosité devrait être critiquée.
Mais ce n'est pas de la générosité. C'est de la fausse générosité. On dit venez, venez, et démerdez-vous. C'est pas possible. C'est là où ce principe, depuis des dizaines d'années, est un affront, je dirais, à tout ce qui est le cœur de l'homme et la réflexion. On ne peut pas avoir autant de gens, et même simplement un couple, un individu, qui viennent et on lui dit bah, « débrouille-toi, démerde-toi, tu fais ce que tu veux », sans savoir, alors qu'il a une mentalité, tout est différent, il est coupé de ses racines. C'est impossible, c'est pas ça la générosité.
On peut constater que les attaques au couteau se multiplient. Regardons, le 22 mai, une infirmière, on en a beaucoup parlé, tuée, et une secrétaire médicale blessée à l'hôpital de Reims. Ou encore le 12 mai, un jeune homme de 16 ans agressé au couteau à Nice. Ou encore le 5 mai, un homme qui a été blessé à l'arme blanche par deux individus à proximité à Paris, à proximité de la station de métro La Fourche. Le 26 avril, un jeune homme d'une vingtaine d'années, victime de plusieurs coups de couteau parce qu'il s'est interposé face à un homme alcoolisé sur une terrasse de café en Vendée. Et puis là, il y a 2-3 jours, dans l'Essonne, un chauffeur de bus poignardé par un individu sous OQTF, c'était un Libyen. Alors Marc Menon, on a vu dans cette liste justement un homme, et il y en a plusieurs, qui s'interposent pour empêcher le crime, pour empêcher le pire, et finalement ils sont victimes. Et ce soir, vous allez nous parler justement de celui dont personne ne parle encore aujourd'hui, qui a certainement sauvé des vies. Est-ce que c'est notre dernière poche de résistance?
Alors, c'est ça qu'il faudrait envisager. Mais déjà, pour parler de cet homme, c'est simplement une image. C'est-à-dire qu'il se résume à son courage. C'est ça qui apparaît furtivement dans des images, avec une hargne, une audace invraisemblable, alors que l'homme se retourne pour tenter de lui planter son couteau, il repart, il le poursuit. Et d'ailleurs, l'autre est tellement désorienté qu'il saute un muret. Et ce temps gagné, c'est ce qui va permettre aux policiers d'intervenir. C'est-à-dire que cet homme oublie son propre individu, oublie ce qu'il est, et il va plus loin que ça. On parle de lui. Que peut-on aujourd'hui formuler sur ce personnage? Rien. Il n'est pas apparu dans ce monde où les gens sont là à prendre des photos de ce qu'il y a dans leur assiette, à prendre la photo du petit serin, du petit machin, etc., où chacun est dans le moi, je regardais comme je suis beau. Cet homme a tenté l'impossible. Grâce à lui, ce soir, il y a des enfants dont la vie est en danger, mais sans doute, eh bien, il serait mort et d'autres seraient tombés. Comment ne pas le louer? Eh bien, il a la dignité de sa générosité. Il s'est soustrait à l'action. Alors que les uns et les autres bavent devant les micros. « Oh, on devrait faire ci, on devrait faire ça. » Ne parlez pas comme si. Lui a risqué sa vie. Il a disparu. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça la grande leçon à tirer. Comment tout à chacun devrait aujourd'hui se saisir de cet exemple pour dire, est-ce qu'en général, nous n'avons pas trop tendance au laxisme, à une sorte de renonciation? C'est dans le papier de mon ami Mathieu Bock-Côté tout à l'heure. Il disait, il y a une esquive, une sorte de renonciation à la contre-attaque. Et puis, ben voilà, on va aller planter des petites lanternes, on va essayer... On va pleurer tous ensemble, une grande marche blanche.
Des nounours et des fleurs.
Des nounours et des fleurs. Mais au moment où il s'agit d'agir, alors oui, il y a la sidération légitime. Oui, il est compréhensible que des femmes qui se retrouvent avec l'enfant soient dans la terreur, qu'elles hurlent et qu'elles n'osent pas. Mais tous les autres, ceux qui se précipitaient dans les micros pour dire « Ah, j'ai vu cela !» On s'est dit « Tiens, c'est bizarre ce qui se passe !» Mais ont-ils cherché à avoir le geste sauveur? Non. Alors ça nous interroge sur ce que nous sommes et sur ce que nous vivons au quotidien. Ces petites incivilités, il y a 2 jours, on parlait de quoi ici? Des jeunes femmes qui sont obligées, enfin, qui finissent par admettre
de devoir se déshabiller, changer de vêtements le temps d'un transport, de devoir, pour traverser tel quartier, sans mitoufler. Mais si quelqu'un leur fait la moindre réflexion, si un personnage se dresse pour dire « mais vous allez laisser cette jeune fille », tous les autres, eh bien regarde si leurs chaussures sont bien cirées, si le lacet tient bien, mais personne ne bouge. Mais en revanche, après, quel courage, on ira éventuellement, si on aboutit à un drame, planter sa petite chandelle, sortir son petit nounours et pleurnicher. Donc il nous faudrait aujourd'hui essayer de nous forger un moral de résistant. Oui, on ne peut pas jaillir héros, formidable cet homme, mais apparemment, en plus, ce n'est pas un lutteur. Il n'est pas intervenu en ayant la capacité du karatéka. Non, avec son sac. Et il repart. Et en plus, il était encombré d'un deuxième sac. Rien ne l'arrête. Mais ça prouve qu'il avait le moral, qu'il avait le sens de la dignité des autres et la dignité de soi. Parce que c'est gentil d'aller devant un micro dire « Ah, j'ai vu, j'étais témoin, oui, c'était étonnant ». Et on peut se regarder dans la glace en ayant été passif comme ça ?
Si vous permettez, on a même entendu des témoins dire « j'ai vu l'assaillant, je me suis écarté » et critiqué l'action de la police qui n'a pas été assez rapide.
Et vous vous rendez compte d'avoir le courage d'apparaître pour dire « je suis un dégonflé, je suis un lâche ». On peut comprendre que l'on ait peur. On n'a pas à avoir honte d'avoir peur. Mais d'apparaître simplement pour revendiquer cela, non, à la limite, vous dites « j'ai honte ». J'ai pas été capable d'agir. Mais on devrait donc se former moralement pour cela. Vous savez, on prend des cours de secouristes. Eh bien, pourquoi n'y aurait-il pas des cours de courage? Que nous nous habilitions tous à être capables de jaillir, parce que ces manifestations de l'horreur, Gabriel nous les a décrites, vous nous les avez rappelées aussi, elles sont tellement constantes. Il nous faut avoir cette capacité à nous dresser. Et non pas à regarder si les chaussures sont bien cirées. Voilà, je crois, ce qu'il nous faut tirer, après l'avoir salué, comme conclusion du courage de cet homme. Je ne sais pas si on le retrouvera. Mais quoi qu'il arrive, je suis certain, en revanche, qu'il ne voudra même pas une médaille. Car les gens qui sont capables de cela agissent simplement en conscience. Réveillons nos consciences. Essayons chaque jour de nous dire si moi aussi je dois être témoin de ça, et surtout si ce sont des enfants, des personnes. Là, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Et les 2 ans, et les gamins, mais personne ne bouge. Vous vous rendez compte? Là, vous risquez votre peau, tant pis.
Marc Menant, c'est tout ce qui nous reste, cette forme de résistance?
Ah, malheureusement, les policiers peuvent être partout, on ne va pas avoir chacun un policier, et puis quoi qu'il arrive... C'est le premier. Si les délinquants, ceux qui vous empêchent de prendre le métro avec la tenue que vous souhaitez, s'ils sont capables de terroriser comme cela, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une sorte de lâcheté ambiante. Il nous faut donc aller contre cette lâcheté ambiante. Pasqua disait « terrorisons les terroristes ». Eh bien, terrorisons tous ceux qui nous mettent en menace de sécurité.
Merci beaucoup pour votre regard. Quelqu'un veut réagir peut-être ?
En une seconde, cette école de formation au courage dont parle Marc, on appelait ça autrefois le service militaire. Hein. Et rappelez-vous, dans le Thalys, ceux qui s'étaient mobilisés, c'était de mémoire des marines américains qui étaient en permission, en congé, tout ça. Donc, le service militaire sert.
Question, Mathieu Bocoté. Nous avons parlé tout au long de cette émission de cette scène d'horreur aujourd'hui, révélée encore une fois les failles profondes de notre société. Devant cela, est-ce qu'on peut croire que bien des Français espèrent un geste de redressement, espèrent un geste d'unité, espèrent que de leurs dirigeants qu'ils puissent peut-être enfin se réveiller au niveau de la sécurité. Est-ce qu'ils ont le droit, ce soir, d'espérer cela?
Ils sont tout à fait en droit de l'espérer. Et c'est une espérance naturelle, une espérance spontanée, une espérance légitime. C'est-à-dire, notre pays va suffisamment mal, peuvent-ils se dire que... Quelles que soient vos préférences, que vous soyez RN ou que vous soyez communiste, que vous soyez républicain ou que vous soyez renaissance, socialiste, faites la liste des gens qui existent. Au-delà de tout, la nation est une patrie, c'est une famille à certains égards, mais ce que nous avons en commun est bien plus important que ce qui nous divise. À tout le moins, c'est ce qu'on dit spontanément normalement dans une nation. Dans un pays qui se définirait d'abord par une idéologie, ce serait plus compliqué. Mais dans une nation, C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on pourrait croire l'union sacrée, hein, pour faire un clin d'œil à l'histoire. Or, je n'y crois pas un seul instant. Je vais m'expliquer pourquoi. Je l'espère, mais j'y crois pas. Et c'est presque le bilan de la journée. Premièrement, le système médiatique, on l'a vu, Raphaël nous l'a très bien dit, traite cet événement sur le mode interdit de réfléchir politiquement à ce qui arrive, ce qu'ils appellent récupération. Donc l'appel à ne pas récupérer précède la possibilité même de la récupération. Donc c'est pas mal. Donc, le système médiatique avertit tout le monde à l'avance, si vous tirez la moindre conclusion politique ou sociale ou sociologique, vous serez un récupérateur. Dès lors, vous serez un infréquentable. Dès lors, vous ne serez pas le bienvenu dans le débat public. Donc, c'est le premier élément qui se passe comme d'habitude. Le deuxième, on va nous dire pas d'amalgame. Je le disais plus tôt, apparemment, on nous dit les chrétiens, reste à voir si c'est vrai. Ce qui est certain, c'est que c'est un migrant syrien. On va nous dire pas d'amalgame. Le fait qu'il soit un migrant syrien doit soit ne pas être mentionné, soit être mentionné comme un élément secondaire qui ne compte pas dans sa biographie et qui nous autorise donc d'aucune manière de penser la question, le lien entre insécurité et immigration dans ce cas particulier. Donc, c'est interdit. Là, la troisième étape est la plus importante. On va nous expliquer que le vrai danger, ce n'est pas cet agresseur au couteau. Ce sont les récupérateurs potentiels dans l'espace public. On se souvient du documentaire sur la petite Lola. Donc, le véritable scandale pour France 5, c'était...
La fabrique du mensonge.
Ah, la fabrique du mensonge. Non, mais à tout le moins, c'était bien nommé. Hein, pour parler d'eux-mêmes, ce titre d'autobiographie involontaire. Alors, quoi qu'il en soit, on s'en souvient, le véritable scandale pour eux, ce n'était pas le meurtre atroce de Lola. Le véritable scandale, c'était que certains y aient vu, dans ce cas-là, c'est un cas d'OQTF, y aient vu une dimension politique liée à la politique migratoire. Et ils en profitaient, eux, les récupérateurs, parce que dans ce cas-là, c'était vrai, pour expliquer, soit dit en passant, qu'il n'y a pas de problème avec l'immigration, aucun souci, aucun problème. Si vous en avez un, vous êtes d'extrême droite, évidemment. Donc, la troisième étape, c'est celle-là, dans tout cela, où on nous explique que le vrai danger sont globalement, politiquement, on va nous dire, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Là, on a ajouté Aurore Berger aussi. Je note qu'on a ajouté Aurore Berger parmi les récupérateurs potentiels. Il fallait y penser. Et les chroniqueurs éditorialistes qui vont vouloir penser sous cette catégorie. Et plus largement, les électeurs qui les suivent, les électeurs idiots, les électeurs imbéciles, les électeurs pas intelligents qui ne comprennent pas qu'il n'y a aucun lien entre insécurité et immigration et qui dès lors sont le jouet, finalement, sont manipulés par les récupérateurs qui seraient les vrais dangers de l'espace public. Autrement dit, d'ici 48 heures, je pense qu'on peut le dire, la vraie menace, c'est l'extrême droite. Et dernier élément, d'autres crimes vont arriver. Hein. Dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, dans un mois, on ne les souhaite pas, on les redoute, on est terrifié, mais il va y avoir d'autres crimes. Ce qu'on vit en ce moment comme un drame va être oublié, comme un fait divers sordide, un fait divers atroce, mais qui aura été déclassé par tant d'autres faits divers de cette nature qu'il n'aura pas structuré d'aucune manière notre compréhension de la vie politique. Donc, devant tout cela, bien franchement, je ne crois pas vraiment à l'unité de la classe politique et médiatique, l'unité des élites. On pourrait la souhaiter, mais pour l'instant, on va très rapidement retourner l'indignation, retourner l'énergie contre ceux qui, justement, veulent penser politiquement ce qui arrive.
Vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas. Vous allez nous laisser sur une note aussi pessimiste?
Ce que vous nommez pessimisme, je le nommerais peut-être réalisme. Et je m'en désole. Je n'ai pas l'habitude d'être un désespéré. C'est une sottise, le désespoir. Mais cela dit, je pense qu'il faut être réaliste. Qu'est-ce qu'on voit depuis, j'allais dire, 30 ou 40 ans? Parce que la décomposition de la France ne date pas d'avant-hier. C'est une histoire longue qui se déploie. Chacun aura son point de référence dans l'histoire. Sur une quarantaine d'années, il y a le sentiment d'un pays qui s'échappe, un pays qui perd la maîtrise de lui-même, qui n'est plus capable, qui voit la sécurité disparaître. Et chaque fois, on a des élites, il faut bien le dire, qui expliquent « Vous avez tort de penser que votre pays vous échappe. Vous avez tort de croire que vous êtes en insécurité. Vous êtes en sentiment d'insécurité. Vous avez tort de croire que vous n'avez plus votre souveraineté. Ça doit être un sentiment de perte de souveraineté, probablement, et un sentiment de perte d'identité. Vous avez tort de penser tout cela. » Une bonne partie du discours médiatique et politique dominant avait pour fonction de criminaliser la réaction, le désir de survie, la réaction vitale de tant de Français qui souhaitent politiquement, intellectuellement, culturellement, nommaient leur désespoir devant leur protestation devant ce sentiment de dépossession. Alors ça, fondamentalement, c'est la trame de fond des 40 dernières années. Réaction vitale, diabolisation inévitable. Alors, il ne faut jamais désespérer, mais en ce moment, entre vous et moi, le désespoir, c'est le premier réflexe, c'est un réflexe qu'on doit surmonter par un effort de la volonté, un effort de l'intelligence. Mais ce qui est certain, c'est que la première réaction aujourd'hui, c'est le sentiment d'impuissance devant un drame atroce.
À 9h45, ce jeudi 8 juin, la France s'est arrêtée. Y a-t-il un lien avec la politique migratoire? il n'est pas autorisé de se poser la question ce soir. Dans un instant, Pascal Pro, pour faire le lien avec Pascal Pro et l'heure des Pro 2, nous allons sur le terrain rencontrer notre envoyée spéciale Célia Barotte. Le soleil se couche à l'instant, dans un instant, sur ce parc d'enfants qui a rouvert aujourd'hui. Quelle est l'ambiance sur place ?
Eh bien, l'émotion est palpable ici au Paquier. De nombreux habitants, les larmes aux yeux et dans le silence, sont venus se recueillir comme pour réaliser que le drame et cette attaque s'est bel et bien déroulée là où chacun a des souvenirs d'enfance. Vous pouvez le voir, c'est un parc habituellement fréquenté par de nombreuses familles dans un cadre idyllique près du lac d'Annecy. Il y a plusieurs familles qui s'arrêtent et se disent avoir évité le pire. Les Annéciens que nous avons pu rencontrer ont du mal à réaliser ce qui s'est passé ce matin. C'est un contexte d'habitude de loisirs qui anime ce quartier, cette promenade très, très verte et naturelle. Aujourd'hui, le site est marqué par la douleur et même si aucun élément permet d'évoquer le motif terroriste, tout le monde a l'impression de se replonger dans les mauvais souvenirs de 2015. Ils ont l'impression que c'est un climat de terreur qui a envahi la ville. La ville est comme sur pause. Les commerçants aux alentours, les locations de pédalos ont par exemple fermé plus tôt aujourd'hui. Des fleurs blanches ont été déposées au bord des pieds de jeux pour enfants. Bien évidemment, toutes les personnes présentes ici ont une pensée particulière pour la famille des 6 victimes. Certains connaissaient les parents des enfants qui ont été touchés. Concernant d'ailleurs les 2 enfants, celui âgé de 2 ans et demi et la petite de 3 ans, leur grand-père nous a fait parvenir des éléments très rassurants. Les enfants sont stabilisés, sauf complications. La fillette a été poignardée par 4 fois, son cousin lui 3 fois. Il n'y aura pas de séquelles. Ils ont été néanmoins touchés à l'estomac, aux reins et aux poumons. Pour l'instant, tout le monde est ici.